Donc bonjour à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse. Ce Dieu à qui je rends grâce, car il vous a appelé à marcher dans le chemin de la lumière. Frères et sœurs, le thème que je vais traiter ce matin concerne la prédestination. Et je vous avoue humblement qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour prendre la décision de prêcher sur ce sujet qui est très sensible et qui a été à la source de beaucoup de sectes qui ont détourné malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu et qui sont eux retournés dans le monde. En effet, la prédestination fait partie des sujets brûlants qu'on préfère ne pas toucher, mais mon principe est toujours le même. Si Dieu a permis que quelque chose figure dans la Bible, cela veut tout simplement dire que nous sommes concernés et par conséquent, nous devons en parler. Aussi, je prie le Seigneur que le Seigneur me donne assez de sagesse et de révélation afin de pouvoir vous communiquer l'éclaircissement que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit au sujet de cette prédestination. Amen. Tout d'abord, nous avons deux questions à nous poser. Qu'est-ce que la prédestination et est-elle biblique? Je vais commencer par répondre à la seconde question en vous affirmant que la prédestination est présente dans la Bible et pour vous le prouver, je vais vous citer deux passages bibliques qui la citent de façon très claire. Le premier de ces passages se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 29 et 30, où il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Voilà. Alors, d'un grand nombre de frères. Le second passage, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Le second passage se situe dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 4 et 5, où il est écrit « En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Alors, je citerai également les versets 11 et 12 de ce même chapitre où il est écrit « En lui, Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Frères et sœurs, nombreux sont ceux qui sont très hostiles à la doctrine de la prédestination. Mais comme nous venons de le voir, elle est néanmoins biblique. La clé est de comprendre ce qu'elle signifie, et c'est là la réponse à la première question. Tout d'abord, il nous faut savoir que les mots traduits par « prédestiné » dans les passages que je viens de citer sont des dérivés du grec « pro-o-rizo » qui signifie « prédéterminé, ordonné, décidé d'avance ». La prédestination, c'est donc Dieu qui détermine à l'avance certains événements à venir. Qu'est-ce que Dieu a prédéterminé? Selon Romains 8, versets 29 et 30, il a prédéterminé que certains seraient rendus conformes à la ressemblance de son Fils, appelé juste et glorifié. En bref, Dieu prédétermine le salut de certaines personnes. De nombreux passages bibliques décrivent les croyants en Christ comme élus. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Matthieu, chapitre 24, versets 22 et 31, Marc, chapitre 13, versets 20 et 27, Romains, chapitre 8, versets 33, chapitre 9, versets 11, chapitre 11, versets 5 à 7 et 28, Éphésiens, chapitre 1, versets 11, Colossiens, chapitre 3, verset 12, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, 1 Timothée, chapitre 5, verset 21, 2 Timothée, chapitre 2, verset 10, Tite, chapitre 1, verset 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 et 2, 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Comme c'est enregistré, vous retrouverez tous ces versets dans la Bible. Alors, la prédestination est donc une doctrine biblique qui affirme que Dieu, dans sa souveraineté, élit certaines personnes pour qu'elles soient sauvées. L'objection la plus courante à la doctrine de la prédestination est qu'elle est injuste. Pourquoi Dieu choisirait-il certaines personnes plutôt que d'autres? Pour répondre à cette question, il est important de garder à l'esprit que personne ne mérite d'être sauvé. Nous avons tous péché, nous dit Romains chapitre 3, verset 23, et nous méritons le châtiment éternel, nous dit Romains chapitre 6, verset 23. Par conséquent, il aurait été parfaitement juste que Dieu nous condamne tous à passer de l'éternité en enfer. Il a cependant choisi de sauver certains d'entre nous. Et ce n'est pas pour cela qu'il est injuste envers ceux qu'il n'a pas choisis. Ils ont en effet ce qu'ils méritent, car tous ont péché et méritent le châtiment éternel, comme je viens de le dire en me basant sur les Écritures. Que Dieu choisisse de faire grâce à certains n'est donc pas injuste envers les autres. Étant donné que personne ne mérite rien de la part de Dieu, personne ne peut objecter s'il ne reçoit rien de lui. Imaginons que quelqu'un donne de l'argent à 5 personnes recrutées dans un groupe de 20 personnes. Les 15 personnes restantes seront-elles fâchées? Probablement que oui. Mais est-ce que ce serait justifié? Non. Et pourquoi? Parce que cette faveur n'était due à aucune des personnes, qu'elle l'ait reçue ou non. Le donneur a tout simplement fait un cadeau à certains. À présent, nous pouvons nous poser la question suivante. Si Dieu choisit qui est sauvé, cela ne remet-il pas en question notre libre arbitre pour choisir de croire en Christ? La réponse à cette question se trouve dans la Bible. En effet, la Bible dit que nous avons le choix. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés, affirme Jean 3,16 et Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, d'entre les morts tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Dans la Bible, Dieu ne rejette jamais personne qui croit en lui et ne refoule jamais personne qui le cherche. C'est écrit dans Deutéronome, chapitre 4, verset 29. D'une manière ou d'une autre, dans le mystère de Dieu, la prédestination va de pair avec la personne qui La prédestination va de pair avec la personne qui, attirée par Dieu, croit pour être sauvée. Dieu prédestine qui sera sauvé et nous devons choisir Christ pour être sauvés. Ces deux vérités sont également vraies. C'est pourquoi Romains chapitre 11 verset 33 proclame « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Frères et sœurs, Lorsque l'on aborde le sujet de la prédestination, comment ne pas penser à la préscience de Dieu ainsi qu'à l'élection divine? Tout d'abord, qu'est-ce que la préscience? La préscience est un terme utilisé en théologie pour désigner la prévoyance de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance de l'ensemble du cours des événements qui sont futurs du point de vue humain. Quant à l'élection divine, il faut savoir qu'elle est inséparable de la prédestination. Cependant, il y a une différence entre les deux. En effet, l'élection est l'acte par lequel Dieu choisit ceux qu'il veut faire participer à sa grâce, alors que la prédestination vise directement le but pour lequel les hommes sont choisis. À partir de ces trois définitions, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment la prédestination et l'élection sont-elles liées à la préscience de Dieu? Nous pourrions, dans un premier temps, affirmer que la prédestination et l'élection sont liées à la préscience, puisque Dieu connaissant tout, il lui aurait été possible de fonder sa prédestination et son élection sur des individus et son élection des individus sur sa connaissance préalable de l'avenir, c'est-à-dire sa préscience. Et c'est exactement la position que de nombreux chrétiens ont adoptée, car elle correspond à la vision arminienne de la prédestination sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Le problème est que ce n'est pas vraiment ce que la Bible enseigne concernant la prédestination, l'élection et la préscience. Pour comprendre pourquoi le point de vue selon lequel Dieu fait son choix en se basant sur la simple connaissance de l'avenir n'est pas ce que la Bible enseigne, il nous faut examiner quelques versets qui parlent de la raison pour laquelle Dieu a élu, prédestiné des gens au salut. Tout d'abord, Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous dit que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon ce verset, nous ne sommes pas prédestinés à cause de ce que nous faisons, mais à cause de la volonté de Dieu pour son propre plaisir. Ensuite, Romains chapitre 9, verset 15, qui cite Exode chapitre 33, verset 9, nous dit « Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ce verset nous montre que la prédestination ne dépend ni de la volonté, ni des efforts des hommes, mais de Dieu qui fait grâce. De même, Romains chapitre 9, versets 11 et 12, déclare à propos de Jacob et d'Ésaü, « Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné Ésaü sera assujetti au plus jeune Jacob. Puis encore, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11, nous lisons, « En lui, Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. » À partir de ces passages et de nombreux autres, nous voyons que l'Écriture enseigne de manière cohérente que la prédestination ou l'élection n'est pas basée sur quelque chose que nous faisons ou ferons. Dieu a choisi par avance des personnes sur la base de sa propre volonté souveraine. Il a choisi de racheter pour lui des personnes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Dieu a prédéterminé ou prédestiné un peuple d'élus dès avant la fondation du monde, comme cela est écrit en Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Dieu a prédestiné un peuple d'élus dès avant la fin du monde en se basant sur sa volonté souveraine et non pas à cause de quelque chose qu'il savait que les gens feraient. Mais alors, qu'en est-il de Romains chapitre 8, verset 29, où il est dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Cela ne signifie-t-il pas que la prédestination est basée sur la prescience de Dieu? Bien sûr, la réponse est oui. Ce texte enseigne que la prédestination est basée sur la prescience de Dieu. Mais que signifie le mot prescience dans ce cas? Signifie-t-il fondé sur la connaissance de l'avenir par Dieu, c'est-à-dire que Dieu regarde simplement dans l'avenir et voit qui croira au message de l'Évangile, puis il les prédestine ou les élue, ou les élit? Si c'était le cas, cela contradirait les versets de l'Épître aux Romains et ceux de l'Épître aux Éphésiens dont je viens de vous parler et qui indiquent clairement que l'élection n'est pas fondée sur ce que l'homme fait ou fera. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans réponse à ce sujet. Dans Jean, chapitre 10, verset 26, Jésus a dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » La raison pour laquelle certaines personnes croient est qu'elles appartiennent à Dieu. Elles ont été choisies pour le salut, non pas en fonction du fait qu'elles croiraient un jour, mais parce que Dieu les a choisies pour l'adoption comme fils dans le Christ Jésus, avant même qu'elle n'existe. La raison pour laquelle une personne croit et une autre non, c'est qu'une personne a été adoptée par Dieu et l'autre non. La vérité est que l'expression connue d'avance de Romains chapitre 8 verset 29 ne parle pas de la connaissance de l'avenir par Dieu. Le mot prescience n'est jamais utilisé en termes de connaissance d'événements, de moments ou d'actions futures. Ce qu'il décrit, c'est une relation prédéterminée dans la connaissance de Dieu, par laquelle Dieu fait naître la relation du salut en la décrétant à l'avance. Les élus de Dieu sont donc tout simplement ceux que Dieu a prédestinés au salut. Ils sont appelés à être élus pour exprimer que Dieu les a choisis. Mais alors, qu'en est-il d'une âme qui n'est pas élue? Quelqu'un qui n'est pas élu peut-il être sauvé? Tout d'abord, je peux affirmer qu'il n'y a pas la moindre preuve dans l'Écriture que Dieu aurait décidé la perdition pour certains, qu'il aurait déterminé que certains hommes seraient perdus pour l'éternité. Au contraire, une telle assertion est une contradiction avec la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans sa parole. Est-ce que Dieu, notre Dieu sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qui a donné son Fils unique Jésus-Christ en rançon pour tous, afin que tous puissent être sauvés, est-ce que Dieu a destiné une partie de ces tous à ne pas y avoir part, mais à être perdus pour l'éternité? Pensons seulement à des passages tels que Jean 3,16, Romains 3,22, Jean 1 Jean 2,2, et il y en a de nombreux autres. Non, Dieu soit béni, il y a une élection destinant de pauvres pécheurs à la gloire, mais jamais la parole de Dieu ne parle d'une élection pour la perdition. Au contraire, la parole de Dieu dit que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, Apocalypse chapitre 22, verset 17, et notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Si nous n'arrivons pas à concilier ces deux choses, l'élection d'une part et l'invitation à venir à Dieu adressée à tous, souvenons-nous que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Quel homme oserait prétendre être à même, par sa raison, de comprendre ou même de juger la sagesse et les voies de Dieu? La foi reçoit ce qu'Abraham exprimait déjà, à savoir, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse chapitre 18, verset 25. Voilà ce que je peux vous dire à propos de l'élection et du salut, et cela m'amène à vous parler d'une dernière chose qui est liée au salut. Je veux parler du libre arbitre et de sa relation avec la souveraineté de Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est la capacité et le droit que Dieu nous donne d'agir par nous-mêmes et non d'être contraints. Le libre arbitre, c'est agir en étant responsable de nos actions. Il est essentiel au plan du salut. C'est un principe éternel. Par l'intermédiaire de ses prophètes, Dieu nous a dit que nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Nous pouvons donc choisir la liberté et la vie éternelle en suivant Jésus-Christ, mais nous sommes également libres de choisir la captivité et la mort en suivant Satan. Dieu nous place donc devant un choix, et ce choix, nous le trouvons au tout début de l'Ancien Testament, au chapitre 2 du livre de la Genèse, à propos du premier couple humain, où Dieu donna ce commandement à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras d'une mort certaine. » Genèse chapitre 2, verset 17. Comment la Bible pourrait-elle être plus claire? Une multitude d'autres textes bibliques vont dans le même sens. Il en est ainsi de Deutéronome, chapitre 11, verset 15 à 20, de Michée, chapitre 6, verset 8, de Josué, chapitre 24, verset 15, pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, de son côté, affirme que le salut nous est offert. Nous trouvons cette affirmation en 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, en Romains, chapitre 5, verset 18, et en Tite, chapitre 2, verset 11. Quant à Pierre, il écrit que le Seigneur ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ainsi, les apôtres martèlent l'universalité de la rédemption. Le salut en Jésus est offert à tous. Accepter ce salut est de la responsabilité de chacun. Dieu offre le salut et manifeste sa gloire de sorte que tous aient la possibilité de se tourner vers lui. Romains chapitre 1, versets 19 à 21. Lorsqu'il est dans la Bible, question de la prédestination, à l'évidence, cela ne signifie pas que Dieu a déterminé à l'avance qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Quel croyant oserait attribuer à Dieu un cynisme suffisant pour nous transmettre dans sa parole un enseignement aussi clair sur la responsabilité humaine et sur le choix devant lequel nous sommes placés, alors qu'il aurait tout déterminé d'avance. Auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Autrement dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette vérité est affirmée 7 fois dans la Bible. En Deutéronome, chapitre 10, verset 17, en Romains, chapitre 2, verset 11, en Actes, chapitre 10, verset 34, en Galates, chapitre 2, verset 6, en Éphésiens, chapitre 6, verset 9, en Colossiens, chapitre 3, verset 25, et en 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. D'autre part, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas du reste, lorsqu'il pose la question suivante. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux, chapitre 2, verset 3. C'est à chacun d'entre nous qu'il appartient d'accepter ou non le salut offert en Jésus-Christ. Mais alors, qu'en est-il de la souveraineté de Dieu? Si c'est nous qui décidons d'accepter ou non le salut, est-ce que c'est encore Dieu le patron? Cela ne revient-il pas à dire que nous sommes sauvés par nos mérites, par le mérite d'avoir accepté? Le verset 3 du psaume 115 nous donne la clé de cette énigme. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, y compris, donc, décréter que nous avons un choix à faire en toute liberté. Si Dieu est totalement souverain, s'il fait vraiment ce qu'il veut, il peut bien sûr décider de nous donner la possibilité de faire un choix, si tel est son bon plaisir. Cela n'enlève rien à sa souveraineté. Le choix laissé à l'être humain n'est pas un droit qui lui est accordé, ni un pouvoir qui lui est conféré, ni la possibilité de lui mériter, ni la possibilité pour lui de mériter quoi que ce soit, ni une parcelle de souveraineté que Dieu lui aurait déléguée. Le choix laissé à l'être humain est un devoir qui lui incombe. Frères et sœurs, la vérité du libre arbitre est donc que nous sommes placés devant un choix tout au long de notre vie, et il nous appartient de le faire en toute bonne conscience devant Dieu, en cherchant à déterminer sa volonté par l'Écriture, le bon sens et la charité. Nous avons à tout instant le choix de faire la volonté de Dieu ou pas, le bien ou le mal. Lorsque nous faisons le mauvais choix, il serait blasphématoire d'en imputer la cause à une prédétermination de la part de Dieu, car il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Jacques, chapitre 1, verset 13. Le mal n'a pas son origine en Dieu. Pourtant, Dieu a en toute chose le dernier mot. Il veille sur tout, et le libre arbitre qu'il nous octroie, ainsi que l'omniprésence du mal dans le monde, n'enlève rien à sa souveraineté sur nos vies et sur le cours du monde. Il y a, dans le cœur de l'être humain, beaucoup d'intentions, mais c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbes, chapitre 19, verset 21. Frères et sœurs, que le Seigneur nous accompagne tout au long de notre vie et de notre côté, qu'on accomplisse sa volonté. Amen.